La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à l'histoire du Liberia. Un rêve de paix et de liberté meurtri par des années de guerre et d'esclavage. Une histoire racontée en français par notre invité Thierry Paulet au son de nos archives sonores et musicales. La voix de l'artiste libérienne Fatou Gayflor du collectif The Liberian Women's Chorus for Change, en écho à la souffrance des enfants, des femmes et des hommes entraînés dans la folie meurtrière des années de guerre civile, dans un pays créé au nom de la liberté. Et ce n'est pas le seul des paradoxes auxquels le livre de Thierry Paulet intitulé Liberia, une histoire singulière, paru aux éditions Cavalier Bleu, s'est attaqué. Bonjour Thierry Paulet.
Bonjour Valérie Nivelon.
Et bravo pour ces années d'enquête sur le terrain et dans les archives américaines, puisque vous livrez la première histoire du Liberia en français. Vous qui êtes un économiste du développement des pays africains, vous qui avez découvert ce petit pays d'à peine 5 millions d'habitants à travers vos missions de terrain. Moi j'aimerais savoir ce qui vous a frappé sur place et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire.
Écoutez, il faut prendre le sous-titre du livre au pied de la lettre. Le Liberia, c'est une histoire singulière, tout à fait exceptionnelle. Aucun autre pays peut être comparé au Liberia, du point de vue historique. Alors moi, mon intérêt pour le Liberia est très ancien, puisque c'était en 1980. J'étais un tout jeune technicien à l'époque, économiste, urbaniste, qui est ma spécialité d'origine. Et j'étais à la frontière du Liberia, mais en Côte d'Ivoire, dans une ville qui s'appelle Mans. Et là, j'ai rencontré des étudiants américano-libériens qui faisaient une thèse sur la société secrète qui s'appelle le Poro, qui est à cheval entre Côte d'Ivoire et Liberia. Donc j'ai appris avec ces étudiants énormément de choses. Et c'est à ce moment-là que le sergent-chef Do, dont on aura l'occasion de reparler pendant l'émission, a fait son coup d'État. Et quelques semaines après le coup d'État, il a fait fusiller pratiquement l'ensemble du gouvernement de son prédécesseur, de Tolbert.
Donc c'est l'histoire en direct.
Voilà,
que vous avez
cet événement m'a beaucoup marqué. Et par la suite, évidemment, tous les gens qui travaillaient en Afrique ont vécu les guerres civiles successives avec effroi, tellement elles étaient violentes et meurtrière, et donc je me suis en quelque sorte juré de chercher à comprendre et à expliquer comment ces événements pouvaient s'expliquer.
Le problème dans notre société libérienne, c'est qu'on ne sait même pas comment distinguer les américano-libériens des autochtones. Dès lors que vous avez de l'éducation et du pouvoir économique, vous êtes vu comme américano-libérien. Je suis une autochtone typique, originaire du centre du Liberia, du comté du Bong. Mais comme j'ai la peau claire, que je suis éduquée et que plusieurs opportunités s'offrent à moi, je suis vue comme une américano-libérienne. C'est vraiment triste. Today I'm seen as an American Liberian.
It is sad. I am myself on my mother's side an indigenous person.
Moi, en ce qui me concerne, je suis un indigène du côté de ma mère et un américano-libérien du côté de mon père. Mais comment pourrais-je déconstruire ma personne? Comment pourrions-nous déconstruire le pays? Nous devons mettre ensemble les deux côtés, tous les côtés. Et ça reste un défi très important dans la vie politique libérienne.
Les voix de Lyman Bowie, prix Nobel de la paix, et de l'homme politique Winston Tubman. Dans La marche du monde, ils posent tous les deux le problème du racisme à l'égard des autochtones dans ce pays créé par des esclaves afro-américains affranchis. Et pour comprendre, il nous faut revenir, Thierry Paulet, sur les origines de la création même du Liberia. C'était à la fin du 19e siècle.
Le Liberia a été créé par une initiative privée, par une association philanthropique qui avait deux objectifs. Un, relocaliser les esclaves affranchis en Afrique. Et deux, propager le christianisme en utilisant les services d'un clergé noir. Hein, donc il s'agissait de relocaliser les esclaves libérés. Je précise bien libérés, hein, puisqu'il n'était pas question de faire partir les esclaves. Et deuxièmement, c'était une démarche des églises chrétiennes pour répandre le christianisme.
Alors est-ce que cette société philanthropique américaine n'a que de bonnes intentions justement à l'égard de ces esclaves affranchis en leur proposant de rentrer en Afrique?
Elle n'a pas proprement parlé de mauvaises intentions, mais elle tenait un discours ambigu parce qu'en fait ce qui motivait cette démarche, c'était le fait que les Noirs libérés représentait un danger pour la société esclavagiste, hein, parce qu'il donnait évidemment de mauvaises idées, un mauvais exemple à ceux qui étaient encore esclaves.
Et d'autre part, comment ces esclaves affranchis, qui grâce à cette société philanthropique arrivent en terre d'Afrique, au Liberia, comment se comportent-ils à l'égard des autochtones? Parce qu'il faut bien imaginer que le Liberia n'est pas une terre déserte à la fin du 19e siècle.
Voilà, alors c'est une autre ambiguïté de tout le projet, c'est que personne s'était posé la question de savoir si c'était légitime de renvoyer ces esclaves affranchis quelque part en Afrique où il y avait d'autres occupants, des habitants. Or, les personnes qu'on renvoyait ne venaient pas nécessairement, et même dans la majorité des cas, venaient de régions d'Afrique tout à fait différentes. Donc elles n'avaient pas la même culture, elles n'avaient pas la même langue. Et donc il y a eu des phénomènes d'incompréhension immédiat.
Est-ce que vous pourriez dire, Thierry Paulet, que ces Américano-Libériens, puisque c'est ainsi que les affranchis esclaves noirs des États-Unis qui arrivent au Liberia sont appelés, est-ce qu'ils sont des colonisateurs?
Disons pas au départ, mais à partir du moment où le pays est devenu indépendant, on peut presque parler de colonie en effet. Maintenant, il faut faire attention avec le terme colonie parce qu'il a évolué. Le Liberia est créé en tant qu'initiative privée. On appelle ça une colonie au sens du 18e siècle. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agit de créer une colonie agricole qui va auto-subvenir à ses besoins.
Une colonie d'exploitation,
voilà,
disait.
Une colonie d'exploitation ou de peuplement. Et donc, ça n'a pas le sens que ça a pris après le traité de Berlin et après que les grandes puissances aient occupé l'Afrique.
Le Liberia devient la première république noire africaine indépendante en 1847, mais est-ce qu'à ce moment-là, elle s'affranchit économiquement des États-Unis?
Non, pas vraiment. La colonie du Liberia, au sens du XVIIIe siècle, est devenue pays indépendant un peu à son corps défendant. En fait, ce qu'auraient voulu les autorités américano-libériennes, c'est devenir une colonie des États-Unis, comme leurs voisins de la Sierra Leone, enfin ce qui s'appelle maintenant la Sierra Leone, est devenue colonie de la couronne britannique. Les États-Unis ne voulaient pas reconnaître une république noire parce que l'esclavage n'était pas encore fini aux États-Unis et donc ça les aurait obligés à avoir des relations diplomatiques officielles avec des autorités noires et d'un point de vue politique interne. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Par ailleurs, la politique étrangère des États-Unis n'était pas favorable à l'idée d'avoir une colonie.
Thierry Paulet, du point de vue de Marcus Garvey, qui est le chantre du panafricanisme et notamment l'idéologue vraiment du retour en Afrique, est-ce que cette possibilité de rentrer donc sur cette terre, le Liberia, reste valable pour Garvey avec cette situation sur place, qui est quand même une situation aussi de violence à l'égard des autochtones qui eux-mêmes sont des Africains, les natives?
Je pense qu'à l'époque où Garvey montait son projet, il ne connaissait pas la situation. Il a perçu ce qui se passait après que la première mission qu'il a envoyée là-bas est revenue. Et cette mission, qui était dirigée par un monsieur Garcia, Eli Garcia, On a des traces de ça dans la correspondance de Eli Garcia à Marcus Garvey. Cette mission a découvert que il y avait des pratiques d'esclavage ou de travail forcé, et au Liberia, il s'est rendu compte que c'était une société extrêmement clivée, et ça leur a fait relativiser leur projet. Mais par ailleurs, les puissances coloniales, la France et l'Angleterre, avaient déjà protesté contre ce projet, et les États-Unis eux-mêmes, qui trouvaient que Marcus Garvey était un personnage un peu sulfureux, ont fini par l'extrader, le condamner d'abord pour différentes fraudes fiscales, et ensuite l'extrader dans son pays d'origine, c'est-à-dire la Jamaïque, où, comme vous savez, c'est devenu un héros national.
Mais Garvey a maintenu son appel du retour à l'Afrique.
Oui, jusqu'à ce qu'il soit renvoyé en Jamaïque. Oui.
L'Afrique pour les Africains, ceux de là-bas et ceux d'ici, dit Marcus Garvey, afin de bâtir une nation sur le grand continent africain.
We of the Universal Negro Movement Association are raising the cry of Africa for the Africans, those at home and those abroad. The great problem of the Negro for the last 500 years has been that of disunity.
Si vous pensez que le noir a une âme, nous dit Garvey, si vous pensez que le noir est un homme, si vous pensez qu'il a reçu du Créateur le même talent que les autres, alors vous devez convenir que ce que d'autres ont fait, le noir peut le faire.
Marcus Garvey's words come to pass. Marcus Garvey's words come to pass. Can't get no food to eat. Can't get no money to spend. Oh. Can't get no food to eat. And you, hello. Come, one, come. Whoa. Let me do what I can. For you and you alone. Whoa. You know the right and do it night. Shall be with many stripes, weeping and wailing and mourning, you got yourself to blame. I tell you, the right, 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 the right. I beg you, oh, tell you to do right.
L'appel de Marcus Garvey pour le retour en Afrique, chanté par Burning Spear sur RFI. Vous écoutez La Marche du Monde. Nous revenons sur l'histoire singulière du Liberia, première république noire indépendante en Afrique. Liberia, un pays où deux mondes se confrontent, Thierry Paulet, celui de la côte et celui de l'intérieur des terres, l'Interland. Comment ça se passe au fond avec la construction de cette république? Est-ce que à la fois ceux qui sont arrivés des États-Unis, les Américano-Libériens, Libériens et les autochtones, les natives, sont tous des citoyens libériens?
Non, il y a une différence considérable. C'est un régime inique de ségrégation entre les Américano-Libériens, donc les créateurs de la colonie, et les autochtones. Hein. Les autochtones n'ont pas la citoyenneté. Ils ne peuvent obtenir la citoyenneté qu'une fois qu'ils ont été déclarés civilisés, entre guillemets, et civilisés, ça veut dire en gros christianisés. Voilà. Mais il y a une troisième catégorie qui est devenue très importante progressivement dans l'histoire du pays.
Oui.
Ce sont les esclaves qui étaient recapturés selon le terme en vigueur aux États-Unis, sur les bateaux que la marine américaine a raisonné, qui continuaient à faire du trafic d'esclaves, en particulier vers le Brésil. Donc les esclaves qui étaient libérés à ce moment-là, on les débarquait, si je puis dire, au Liberia. Et on leur a donné le nom de Congos, parce que la plupart d'entre eux venaient d'Afrique centrale ou de Mozambique. Et cette catégorie de population a grossi et a fini par prendre beaucoup d'importance aussi dans le paysage du Liberia.
Thierry Paulet, dans cette société coloniale où les affranchis, les américano-libériens, se sentent une mission civilisatrice à l'égard à la fois des autochtones, mais aussi de ces esclaves recapturés dont vous venez de nous parler, sont confrontés aussi à une organisation de la société qu'ils ne connaissent pas du tout. C'est toute la dimension secrète que vous appelez d'ailleurs dans votre livre le libérien secret. Quelle est cette organisation, puisqu'à l'époque, les Libériens, effectivement, on l'a compris, n'est pas un État, hein, ce sont des groupes sociaux dans des villages, mais qui ont une organisation sociale.
Oui, tout à fait. La région était socialement très organisée par une société secrète qui s'appelle le Poro. Il y avait d'autres sociétés secrètes, comme les hommes léopards, mais disons la principale société secrète était celle du Poro. Le Poro, c'est né à peu près au XVe siècle en Guinée, et ça s'est répandu au Liberia, au Sierra Leone et un peu en Côte d'Ivoire. Et cette société secrète est une société très, très hiérarchisée, très sophistiquée, très cruelle, hein, qui n'hésitait pas à tuer ses membres qui se laissaient aller à des confidences. Il y avait beaucoup de rites violents, mais ça structurait l'ensemble de la société.
Alors, il faut bien comprendre, effectivement, vous l'expliquez dans votre livre, que ces sociétés initiatiques secrètes sont bien le cœur de cette structure sociale des autochtones, ce qu'on appelle en anglais les natives, au Libéria, puisque c'est là, au fond, que réside le pouvoir de décision pour l'avenir de la communauté. Alors que ce soit dans la société du Pourou pour les hommes ou la société du Sondé pour les femmes, ce cercle des initiés, il faut bien comprendre qu'il a quasiment plus de pouvoir qu'un chef de village, par exemple, Thierry Paulet.
Alors, c'est ce qui a conduit les autorités libériennes, donc de la communauté américano-libérienne, à petit à petit se rendre compte que s'ils voulaient contrôler l'intérieur du pays, s'ils voulaient être capables de faire de l'indirect rule, il fallait qu'ils utilisent le pourreau plutôt que de s'y opposer.
C'est un sujet éclairé par l'historien hollandais Stephen Ellis. Il m'avait reçu chez lui à Amsterdam en 2011 pour nous expliquer cela.
Tout homme et toute femme, en principe, a été initié. Autrement, ce n'est pas un adulte. Hein, vous restez garçon ou fille. Mais il y a des étapes plus supérieures de l'initiation. Et l'initiation, normalement, il y a un degré de, disons, de violence, dans la mesure où, par exemple, l'initiation dans le poro, jusqu'à aujourd'hui, passe par la cicatrisation. Évidemment, c'est un processus qui est un peu pénible. Si vous voyez au Liberia, bon, même au Monrovia, mais surtout dans les villages, un homme qui enlève sa chemise, vous voyez souvent qu'il a des cicatrices, un peu comme un tatouage. Il paraît que pour faire ces cicatrices, c'est assez pénible. Ce n'est pas une peine extrême, mais disons, ça passe par une certaine douleur. Et ça fait partie de l'initiation.
L'initiation, Stéphane Ellis, passe justement par un rituel qui passe par le corps, hein, vous venez de le dire. Mais c'est aussi une transmission du pouvoir des anciens aux plus jeunes, et ça passe par des objets rituels. Et l'objet rituel au Liberia, dans la société secrète, c'est un objet rituel qui vient souvent d'une partie de corps humain.
Je pense que dans l'univers du pouvoir au Liberia, comme dans beaucoup de parties du monde, même dans un sens en Europe, le pouvoir du monde invisible s'exprime souvent par un objet matériel. L'objet lui-même n'a pas de pouvoir, mais il peut devenir la vaisselle d'un pouvoir. Bon, le pouvoir d'un objet, souvent, vient du sang. Il semble, c'est difficile à savoir comment ça se passait au 19e siècle ou avant, parce qu'il y a très peu de textes de l'époque. Mais il semble que de temps en temps, dans certaines circonstances, et pour avoir un pouvoir vraiment extrême, il fallait du sang humain. Donc il fallait qu'une personne soit tuée pour que le sang soit utilisé pour rendre un objet de culte puissant. En Afrique occidentale, enfin dans la partie qui est devenue le Libéria, il n'y a pas cette tradition d'État, mais comme toutes les communautés humaines, il y a un principe qu'une communauté structurée doit aussi avoir des règles pour gérer la violence. Eux, ils ont choisi de le faire comme ça. C'est ça l'histoire de cette partie du monde.
Stephen Ellis, sur RFI, l'auteur de The Mask of Anarchy, dans lequel il explore les origines de la guerre civile au Libéria. Il a minutieusement enquêté sur la façon dont les élites américano-libériennes se sont appropriées les rituels magiques en les dénaturant, nous dit-il.
Je pense que ce qui se passe au cours du XXe siècle, certes jusqu'au coup d'État de 1980 au Libéria, pour reproduire une phrase qui a été utilisée par un écrivain français, c'est une assimilation mutuelle des élites. C'est-à-dire que les chefs et les notables de l'intérieur, qui ne sont pas du tout d'origine américaine, peuvent quand même avoir une partie du pouvoir en s'associant avec l'élite américano-libérienne. Et en même temps, l'élite américano-libérienne peut pénétrer la société politique de l'arrière-pays en s'initiant aux sociétés secrètes. Parce qu'après tout, plus qu'il y a la pratique des élections, plus que les hommes politiques doivent faire campagne, même dans les villages, même à l'arrière-pays, pour récupérer des voix. Et le problème classique, évidemment, pour un homme politique, c'est de dire, bon, je suis en campagne, je vais dans un village, je n'ai pas beaucoup de temps. Comment avoir un certain standing dans des communautés où, normalement, pour devenir puissant, il faut être vieux? C'est les gérontocraties. Et les vieux sont les membres les plus importants de la société initiatique. Mais pour devenir important, normalement, ils sont membres depuis 30 ans ou 40 ans pour devenir vieux et puissant et tout ça. Et l'homme politique a le problème, c'est qu'il veut le pouvoir tout de suite. C'est nécessaire pour une campagne moderne. Donc, les hommes politiques, plus que le Libéria devient démocratique, plus que les hommes politiques sont tentés de se faire initier rapidement aux sociétés d'initiation. Et normalement, une initiation ultra rapide peut passer par le versement du sang, par un sacrifice quelconque.
Stephen Ellis, vous voulez dire que les responsables politiques nationaux au Libéria, entre les années 30 et les années 80, vont donc secrètement, puisque ce sont des pratiques qu'ils ont dénoncées et qu'ils ont désignées comme illégales, vont vouloir, pour gagner des électeurs dans les villages, pour accéder au pouvoir, être initiés, vous l'avez dit très rapidement, en passant par un sacrifice de sang humain.
Bon, ce que je sais, parce que j'ai même travaillé dans les archives du gouvernement libérien à Monrovia, ce qu'on voit, c'est que dans les campagnes électorales, à partir, je dirais, des années 40, de plus en plus, pendant chaque campagne électorale, il y a des bruits, qu'il y a des gens qui disparaissent parce que des hommes politiques veulent utiliser du sang humain pour faire des médicaments, des médecines, qui vont leur permettre d'acquérir le pouvoir. C'est-à-dire, ils ont assimilé le principe même des sociétés initiatiques. Ce que je sais aussi dans les archives du gouvernement libérien lui-même, que j'ai consulté, c'est que assez souvent, dans les villages, en dehors des campagnes électorales, il y a des cas de meurtres qui sont des meurtres rituels, c'est-à-dire la mort d'hommes, ou mort de personnes, parce que ce n'est pas forcément des hommes, ça peut être des femmes ou des enfants, mais pour des besoins de communication avec le monde invisible. Tout ce que je peux dire, c'est que tous les chefs d'État, après les années 1930, se sont fait initier à la société Poro, qui est la société la plus puissante, la société initiatique la plus puissante de toutes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Très, très difficile à dire. Et est-ce qu'ils participent vraiment à la société? Je ne sais pas. Et je veux absolument souligner que la société Poro, c'est considéré dans les parties du pays où ça se pratique, c'est-à-dire dans la partie nord du pays, comme véritablement le fond de l'ordre social lui-même, parce que c'est une initiation à l'état d'être adulte, où on apprend les valeurs propres à un adulte. Donc toutes ces questions de sang et tout ça, c'est une sorte de déformation introduite par la politique républicaine moderne dans la vie des communautés libériennes.
La voix de Stéphane Ellis sur RFI, c'est une archive La Marche du Monde et c'est une clé de compréhension pour qui veut comprendre le sens des violences extrêmes perpétrées pendant la guerre civile au Libéria. Qu'en pensez-vous Thierry Pollet, vous qui nous avez justement dit au début de cette émission que c'est bien la rencontre avec le Poro qui vous a donné envie de comprendre ce pays, le Libéria, et d'écrire son histoire?
Oui, mais Ellis est un grand connaisseur du sujet. Hein. Il a écrit un livre de fond là-dessus. Il y a eu un premier auteur qui a beaucoup travaillé sur le Poro, qui était un missionnaire américain et médecin qui s'appelait George Harley. Donc en fait, on en sait plus sur le Poro que ce qu'on dit habituellement. La question se pose même pas. Hein. Il y a bien des pratiques de sacrifice humain qui sont très codifiées. Monsieur Harley, lui, mettait en évidence un rapport dans la hiérarchie entre le Poro et la franc-maçonnerie. Il y voyait des comparaisons. Et alors, ça m'amène à renchérir encore sur ce que dit Ellis à propos de la fusion entre pouvoir et Poro, pouvoir civil et Poro. Il faut rajouter encore la franc-maçonnerie qui était très puissante, qui est toujours très puissante d'ailleurs au Libéria, et aussi la religion chrétienne. Il y a un des recordman, si je puis dire, de ces fusions, c'est le président Tolbert, qui était à la fois pasteur, il a même été chef de l'église de l'Alliance Baptiste, il a été maître de la franc-maçonnerie, son frère était grand maître de la franc-maçonnerie, et il était hiérarque du Poro, il était zoo du Poro. Il y avait donc une concentration de pouvoir, y compris au culte, entre les mains de la même personne.
France Inter, il est midi. Et François Lucazeau vous présente les informations qui sont particulièrement passionnantes ce matin.
Coup d'État au Libéria, le gouvernement du pays vient d'être renversé par des hommes de troupes de la garde nationale menés par le sergent-chef Samuel Doe. C'est ce que vient d'annoncer un porte-parole de l'armée. Je vous rappelle que le Libéria est un petit pays de la côte ouest de l'Afrique, encastré entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Selon le témoignage d'un membre des services de sécurité de la présidence, le président du pays, William Tolbert, aurait été tué dans la nuit par les rebelles, ainsi que le commandant en chef de la garde présidentielle. La foule a envahi les rues ce matin en acclamant les soldats et des tirs d'armes automatiques résonnent dans la capitale, Monrovia. Il semble qu'il s'agisse pour l'instant de soldats qui tirent en l'air pour manifester leur joie.
Nous sommes le 12 avril 1980, rupture historique au Libéria. Tolbert est renversé par ce nouvel homme fort, un jeune sergent autochtone de 28 ans. Et son premier geste est de mettre en scène la revanche spectaculaire des autochtones sur les américano-libériens. Que se passe-t-il, Thierry Pollet?
Le premier geste du sergent Doe qui a été acclamé par la population. Il y avait une liesse populaire au moment de sa prise de pouvoir. Son premier geste, quelques semaines après, a été de faire fusiller pratiquement l'ensemble du gouvernement de son prédécesseur, de Tolbert. Une exécution en public sur la plage, pratiquement sans qu'il y ait eu de procès. Et ça a été un choc pour la communauté internationale. Et ça a coûté cher au sergent Doe parce que du coup il s'est mis un peu au banc des nations. Néanmoins, les États-Unis ont soutenu le régime de Doe pendant très longtemps.
Doe est un ancien béret vert d'ailleurs, hein, formé par les Américains.
Oui, c'est ça. Mais bon, c'était un officier de rang très 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 subalterne, un sergent. Il était pratiquement illettré, hein, pratiquement inculte, et donc il a eu beaucoup de mal à passer du rôle de militaire à celui de chef d'État.
Comment vous expliquez cette liesse populaire ? Est-ce que c'est bien cette idée de la revanche ?
Oui, c'était pour les autochtones, c'était un grand moment parce que le régime inique des Américano-Libériens avait été effacé de la carte. Malheureusement pour eux, ça s'est très très mal terminé, hein, puisque c'est le sergent-chef d'eau qui a un peu ouvert la boîte de Pandore des rivalités ethniques et qui a conduit le pays à la guerre civile.
Les États-Unis sont toujours maîtres du jeu à ce moment-là, hein, en ce qui concerne le Libéria, Thierry Paulet ?
Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils étaient maîtres du jeu. Je suis de ceux qui pensent que le coup d'État du sergent Do n'était pas une initiative de la CIA. Et les États-Unis n'ont fait que suivre. Mais du point de vue géostratégique, ils voulaient absolument appuyer le régime libérien parce qu'il y avait des fortes pressions des communistes un peu partout sur le continent dans les luttes anticolonialistes. Il y avait Kadhafi, enfin bref, il y avait des tas de forces qui menaçaient la démocratie vue par les Américains en tout cas.
Et en ce qui concerne l'Organisation de l'Union africaine, quelle est sa position face à ce retournement de l'histoire au Libéria ?
Alors l'Union africaine a d'abord boudé le Libéria, hein, parce que ses façons de faire des exécutions publiques sur la plage sans procès, là, pour elle, ce n'était pas acceptable. Hein. Donc ça a isolé le Libéria de la communauté des États africains.
Alors pas de vainqueur au fond, hein, et des milliers de morts, de blessés, d'enfants soldats, bref, une société entière à repenser, et c'est le message de l'ancien chef de guerre Charles Taylor, légitimé par l'élection présidentielle de 1997.
Liberians must dream big dreams again. Liberians must set new big goals again. Liberians must think big again. Liberians must strive, seek, go for it, for the sky is the limit.
Les Libériens doivent avoir de grands rêves, les Libériens doivent encore voir grand, les Libériens doivent lutter, y croire. La seule limite, c'est le ciel. Comment entendez-vous ce discours d'investiture de Charles Taylor ?
Ah ben c'est un document extraordinaire. Il témoigne bien de la rhétorique à la fois exaltée et presque chrétienne que Taylor utilisait. Je rappelle que Taylor est devenu ensuite born again, est devenu pasteur même.
Il a des accents de King, Martin Luther King.
Exactement, je pense qu'il fait référence très clairement au fameux discours de Martin Luther King.
« I have a dream ».
C'est le témoignage de l'ambiance politique qui régnait à cette époque-là. Et quand on sait que c'était par ailleurs un tueur psychopathe et qu'il a des dizaines, voire des centaines de milliers de morts sur la conscience, c'est un petit peu effrayant.
Et donc c'est à la fois, et c'est encore un paradoxe libérien, c'est à la fois 1997, l'arrivée au pouvoir de Taylor, en quelque sorte, vient clore cette séquence d'hyperviolence.
Après un coup d'État quand même.
Hein. Après un coup d'État, bien entendu, mais Taylor, lui, condamné en 2012 à 50 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il purge d'ailleurs toujours sa peine, bien sûr, de prison en Angleterre.
Oui, alors là, il faut préciser que Taylor n'a pas été condamné pour son action au Libéria. Il a été condamné pour ses actions en Sierra Leone, puisque à la fin, la guerre est devenue régionale, la Sierra Leone a été emportée dans la tourmente. Et c'est pour la Sierra Leone que Taylor a été condamné. Il n'y a pas eu de procès de Taylor au Libéria. Et d'ailleurs, il jouit encore dans ce pays, pour une partie de la population, d'un grand prestige.
Charles Taylor, qui finira par être extradé du Libéria en 2003. En 2005, Thierry Paulet, c'est l'élection de la première femme présidente en Afrique, Ellen Johnson Sirleaf. Est-ce que vous diriez que c'est à ce moment-là que le cycle de la violence va enfin s'inverser au Libéria.
Oui, il y avait le gouvernement transitoire qui a suivi entre après le départ de Taylor et la mise en place des élections avait déjà beaucoup calmé le jeu. Il y avait les forces des Nations Unies qui faisaient régner la paix ou à peu près partout. Mais effectivement, les premières élections libres, c'était les premières élections libres en fait non trafiquées, si je puis dire, de l'histoire du pays. Donc c'est manifestement une date très importante.
Et en 2011, Ellen Johnson Sirleaf reçoit le prix Nobel de la paix.
Pour moi, c'est la reconnaissance de nombreuses années de lutte pour la justice, la paix, la promotion du développement. Ce prix est partagé avec Lima Bowie. Lima Bowie a travaillé très dur avec les femmes du Libéria pour lutter contre la dictature, pour promouvoir la paix. Je crois que nous avons toutes les deux accepté ce prix au nom du peuple libérien. C'est leur prix. Notre pays entre dans sa 9e année de paix. Et cela, c'est grâce à tous les Libériens, particulièrement les femmes libériennes qui se sont toujours battues pour la paix. Cette reconnaissance nous pousse à nous engager encore plus pour promouvoir les droits humains, l'égalité des hommes et des femmes et pour une meilleure vie pour tous les Libériens. Encore une fois, nous remercions ceux qui nous ont choisis pour cette reconnaissance qui motive toutes les femmes d'Afrique et du monde pour se lever, pour prendre leur part de pouvoir et avoir le courage de leur conviction. Merci. To have the courage of their conviction. Thank you.
La marche du monde spéciale Libéria. Lima Bowie, prix Nobel de la paix et nommé responsable du dialogue national par Ellen Johnson Sirleaf, évoque son enfance à Monrovia avant le coup d'État de 1980. Ses parents étaient autochtones.
Let me say one thing. I grew up right in Monrovia, but I grew up in a very local community.
Laissez-moi vous dire une chose. J'ai grandi ici à Monrovia, mais j'ai grandi dans une véritable communauté locale. Je ne vis plus là, mais c'est mon village local, mon village urbain. J'ai grandi dans une communauté où il y avait plusieurs groupes ethniques, où il y avait des chrétiens et des musulmans, et je n'ai jamais ressenti, vraiment pas une seule fois, une quelconque différence entre nous les enfants. Quand le coup d'État est arrivé, et même sous le régime du président Samuel Doe, nous avons continué à vivre dans cet état d'esprit. Mes amis les plus proches, avec lesquels j'ai grandi, étaient du même groupe ethnique que le président Doe. Et même maintenant qu'ils vivent aux États-Unis d'Amérique, ils restent mes amis les plus chers. Leurs parents me considèrent comme une de leurs filles, et mes parents les considèrent comme leurs enfants. Personnellement, mais peut-être parce que j'étais très jeune, je n'ai ressenti aucune division avant la guerre.
Personally, and maybe because I was very young, I did not feel any division until the war. When the coup took place, I was 13, so I could understand some of the issues.
Quand le coup d'État s'est produit, j'avais 13 ans et j'ai pu comprendre certains enjeux. Mais pour moi, ce coup d'État, ça n'était pas une question d'opposition entre américano-libériens et autochtones. C'était plus un problème lié au régime qui était devenu trop dur. Et jusqu'à ce que ce soit la guerre, je n'ai pas compris qu'il y avait une opposition entre américano-libériens et autochtones. Bien sûr, il y avait des gens plus riches que les autres dans certaines communautés, mais je me disais juste qu'ils avaient plus de pouvoir économique que ma famille. Ce n'est vraiment que plus tard, quand la guerre a commencé, qu'on a pris conscience de toutes ces problématiques. Ce qui me rend triste, en tant que libérienne et militante pacifiste, c'est que lorsque nous étions enfants, nous étions protégés par nos familles de ce langage de la division, alors qu'aujourd'hui, les gens sont fiers de dresser les enfants, aussi petits soient-ils, les uns contre les autres.
Today, people pride themselves in teaching children these languages. So as young as children are, they can tell you that it's us versus you.
Donc j'ai grandi, et heureusement pour moi, j'ai grandi dans une communauté qui m'a enseigné le vivre ensemble. Et pour moi, c'est ça le message à transmettre aux jeunes générations de Libériens. Il faut leur transmettre la politique de l'unité, pas celle de la division.
That we have to pass on to the next generation of Liberians, the politics of oneness, not the politics of division.
Est-ce que le vivre ensemble, c'est une belle expression initiée par cette politique de réconciliation, hein, par Lemma Bowie, qui est donc d'origine native, avec Helen Johnson Sirleaf, qui elle est d'origine américano-libérienne. Est-ce qu'elles ont réussi à initier une forme de réconciliation?
Elles s'y sont employées. Je pense pas qu'on puisse dire que c'était un succès, mais de toute façon, c'est normal. Hein. Il faut des décennies pour revenir sur des siècles, au moins des décennies pour revenir sur des siècles d'histoire. Bon, faut noter que Madame Bowie était autochtone, Madame Sirleaf pas du tout. Hein. Elle appartenait à la caste, à l'élite du monde américano-libérien. Et d'ailleurs, Madame Bowie est devenue très très critique vis-à-vis du régime Sirleaf par la suite.
Et c'est très intéressant parce que ce qu'induit également Lemma Bowie, c'est que le problème au Liberia, c'est pas seulement un problème d'origine entre autochtones et américano-libériens, c'est aussi finalement un problème de lutte des classes, et c'est à ça aujourd'hui peut-être que s'attaque le nouveau président, George Weah, avec sa politique affirmée en direction des pauvres.
Our proper agenda is agriculture, is health, and also sustain small businesses, encourage our people. And if you look around, this is what we're doing. So our proper agenda is to cater to those people that in need. You give them what they need.
Notre propour agenda, notre programme pour les pauvres, c'est l'agriculture, c'est la santé, la façon de soutenir les petites entreprises et d'encourager notre population. Et si vous regardez bien, c'est ce que nous faisons. Nous nous occupons de ceux qui sont dans le besoin et nous leur apportons ce dont ils ont besoin.
Massive destruction.
À bord de son 4x4, John Colley, ancien journaliste et directeur d'ONG, désigne un vaste terrain vague envahi par la végétation.
Vous voyez ce champ? Eh bien, il y avait tout un quartier ici avec des milliers de personnes. Il a été détruit en 2015 sous prétexte qu'il voulait agrandir l'université, mais rien n'a été fait. Cela montre l'ampleur et la gravité des conflits fonciers dans ce pays.
La plupart des expropriés sont des déplacés de la guerre civile, victimes de l'absence, de la destruction ou de la falsification des titres de propriété. Constance Tidge, du groupe de travail sur le foncier, milite en faveur de la réforme agraire depuis des années.
Le Liberia a été fondé par d'anciens esclaves venus des États-Unis, mais il y avait des habitants avant eux qui ont été privés de leurs terres au début de la République par la loi sur les aborigènes. L'État est devenu propriétaire de toutes les terres qui n'avaient pas de titre de propriété. Et jusqu'à cette année, c'était du domaine public et le gouvernement pouvait à tout moment saisir la terre et la donner en concession à n'importe quelle entreprise.
La nouvelle loi reconnaît maintenant le droit coutumier sur la terre, un véritable changement de paradigme, mais le plus dur reste à faire, explique Otello Brandi, le directeur de l'autorité foncière.
Nous allons maintenant commencer l'inventaire de toutes les terres du domaine public et du gouvernement. Après, nous passerons aux terres coutumières. Le défi sera de savoir combien de terres coutumières il y a vraiment, car pour l'instant, nous n'en savons rien et beaucoup ont été vendues. Avec cette loi, je crois que les communautés seront mieux protégées et seront en position de mieux négocier avec les concessionnaires.
Reste également à informer les communautés sur leurs droits. Pour éviter tout abus, la vente de terres coutumières est interdite pendant les 50 prochaines années. Carole Valade, de retour de Monrovia, RFI.
L'enjeu du Liberia aujourd'hui, selon vous, Thierry Paulet, après ces années d'enquête, à la fois sur le terrain au Liberia, mais aussi dans les archives, notamment les archives américaines, est-ce qu'au-delà de l'histoire singulière, l'histoire paradoxale de ce pays, ce problème de la terre est-il aujourd'hui finalement au cœur de la question de la réconciliation des Libériens?
Oui, parce que la question foncière était au cœur du système inique que les américano-libériens avaient mis en place.
Donc on revient au début de l'histoire.
Ils avaient interdit la propriété aux natifs qui n'étaient pas civilisés, entre guillemets, et donc ils se sont distribués les terres entre eux. Et c'est un phénomène qui était parfaitement connu. Il y a des citations du président Tubman à l'époque qui le reconnaissaient. Et donc, ce n'est pas seulement des concessions qui étaient attribuées à des compagnies comme Firestone ou des compagnies d'or, d'exploitation de minières, de fer, etc. C'était aussi des terres qui étaient cédées pour rien à des amis, à des confrères, à des associés du poro. C'est ce qu'on appelle le crony capitalisme, le capitalisme des copains. On se rendait service. Et quand le pouvoir rendait service à un entrepreneur, l'entrepreneur rétribuait les autorités. Ça fonctionnait comme ça. Et c'est la question foncière qui était au cœur du problème. Donc quand Georges Weah met cette question en tête de ses priorités, il a raison, il s'attaque à un problème fondamental, essentiel, qui est au cœur des dysfonctionnements de la société libérienne. Ceci dit, il s'attaque à un problème extrêmement compliqué, techniquement, politiquement. Donc, dans ce type d'action, le diable est dans les détails. Il faut voir maintenant comment, à la longue, ils arrivent à gérer cette question. Le témoignage qu'on a entendu, là, le dit bien, on n'a même pas un inventaire foncier. On ne sait pas exactement qui appartient à quoi. La plupart du terre ont déjà été attribuées. Donc, est-ce qu'il y a des ayants droit qui vont se manifester? Ça va être très compliqué et vraisemblablement très long. Et probablement aussi assez coûteux. Donc, on a d'autres exemples, par exemple en Afrique du Sud. On sait bien que la politique de redistribution des terres en Afrique du Sud, c'est compliqué. Donc, au Libéria, je pense que ça va prendre un certain temps.
Pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, on invite justement le nouveau président à lire votre livre, Une histoire singulière, paru aux éditions Cavalier Bleu. Merci Thierry Paulet. Vous avez également un site internet, thierrypaulet.com. Guerre et paix au Libéria, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde réalisé par Richard Rifono avec la complicité de notre documentaliste Françoise Delignon. N'hésitez pas à réagir sur notre mail marche.monde@rfi.fr. Exprimez-vous sur les réseaux sociaux, podcastez cette émission, c'est la vôtre. Et on se quitte avec l'hymne à la paix d'Alpha Blondie pour le Libéria. Oh, Babylon shall not rise again. Oh, Babylon shall not stand again. Babylon shall not stand again. Cause every day they're talking about the Liberian. Liberia is crying out. No matter who lose, Liberia still crying out. No matter who's right, they've gotta stop the fight. No matter who's wrong, the devil's still strong. We want peace in Liberia. Peace in Morovia. We want peace in Liberia.